Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par La Poste Solutions Business et son offre e-éducation qui a vocation à promouvoir et à déployer l'usage du numérique éducatif dans l'ensemble de nos régions. La Poste s'engage auprès des établissements scolaires en proposant des solutions sur mesure, comprenant du matériel et des services associés pour mettre en place une offre numérique adaptée à chaque établissement. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'EdTech France, le podcast. Le métier de prof, il a de l'avenir.
S'inscrire sur la durée, c'est comme ça que ça marche.
Faciliter l'embarquement de tout le monde dans l'apprentissage.
Que les élèves que l'on a en face de soi arrivent à s'épanouir.
D'empowerment des enfants par une transformation de l'école.
Aujourd'hui, Twitter est la salle des profs un peu 2.0.
On apprend mieux et on retient mieux quand on est challengé.
Les profs sont parfois très hostiles à des jeunes entrepreneurs de l'EdTech.
Rien ne remplacera à un moment donné l'humain.
Nous passons nos journées à chercher de l'information et à lire.
Engager les collaborateurs.
La EdTech, finalement, elle touche chacun d'entre nous. Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast. Oh, c'est dur à dire, hein, du podcast d'EdTech France. Voilà. Après un premier rendez-vous, nous nous sommes demandé ce qu'étaient les EdTech. Nous avons compris comment se structurait l'écosystème en France et à l'étranger et ce dont il s'agissait. Eh bien, nous allons maintenant nous pencher sur une question tout aussi importante, sinon même davantage, celle de l'utilité même de ces solutions et de ces technologies. Concrètement, pourquoi faudrait-il repenser l'enseignement et l'apprentissage? Doivent-ils impérativement se faire différemment aujourd'hui qu'hier? Et ensuite, comment le faire très concrètement? Nous allons aborder toutes ces questions durant ce nouvel épisode. Et nous allons commencer par le pourquoi avec notre première invitée, Sophie Penn. Bonjour Sophie.
Bonjour Rémi.
Alors bienvenue Sophie, vous êtes co-responsable du master EdTech du CRI à l'université Paris Descartes. Alors CRI, ça veut dire
Centre de recherche interdisciplinaire.
Voilà, c'est un cri d'espoir en quelque sorte.
C'est un lieu de rencontre.
Et c'est un très beau lieu de rencontre. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question très large. Pourquoi l'apprentissage doit-il se faire différemment aujourd'hui? Comment est-ce qu'on explique ça?
Alors, je ne sais pas s'il doit se faire différemment, mais je pense que de fait, il se fait différemment. Alors, peut-être que c'est toujours difficile de dire les choses changent, parce que c'est un peu comme les embouteillages, on ne peut pas être à deux endroits à la fois, donc oui. On ne sait pas si on a choisi le meilleur itinéraire. Mais de fait, l'apprentissage, nos cerveaux ne changent certainement pas. Ce n'est pas tant le numérique qui aurait déjà changé fondamentalement les structures profondes de nos cerveaux. Le médium de la réception, le véhicule des savoirs change aussi. Le statut probablement du savoir dans notre culture, l'extension de la définition de ce que sont des savoirs, et puis aussi la façon dont les gens, les enfants, les étudiants, les adultes apprennent. Une petite chose toute simple, c'est que depuis 10 ans, nous passons nos journées à chercher de l'information et à lire. Donc, est-ce que c'est apprendre? Sûrement pas. Est-ce que c'est être en contact avec des informations? Sûrement. Est-ce que de ce contact, on peut faire du savoir, de l'intelligence, de l'information? Peut-être. Et à quelles conditions? Et donc, le sujet de notre conversation est un peu lié à tout ça.
Oui, c'est important de rappeler que l'information n'est pas le savoir. Et le savoir n'est pas la connaissance. Alors, quand on est prof, et je l'ai été, on entend souvent en salle des professeurs, entre deux cours, les collègues se plaignent que les élèves étaient mieux avant, qu'ils étaient plus disciplinés, qu'ils étaient plus attentifs, etc. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on l'entend encore plus, parce qu'il y a cette tentation de l'étudiant ou de l'élève d'être sur Internet ou de sortir son téléphone, etc. Donc, est-ce qu'on est effectivement face à une génération qui zappe plus vite, qui a besoin peut-être de choses plus ludiques? Comment est-ce que tu envisages les choses?
Bah, déjà, d'ailleurs, toujours quand on suit les sciences cognitives, on apprend que, de toute façon, nos séquences d'attention sont très courtes. Donc, comme disait, j'ai entendu Elena Pasquinelli, qui est chercheuse en sciences cognitives, enfin, en épistémologie des sciences cognitives et qui est à la main à la patte, elle nous expliquait un jour qu'une petite fille de 6 ans peut très bien rester 45 minutes en classe, sans bouger et en écoutant ce que dit un ou une enseignante. Elle peut le faire, mais la conséquence, c'est que elle va consacrer toute son énergie à se contrôler et à ne pas bouger. D'accord. Donc, on peut obtenir le résultat. Est-ce que c'est la condition optimale pour apprendre ? Elena n'avait pas l'air de le penser.
Pour être allé au CRI, il y a un espace qui est le Learning Center, c'est ça ? Qui est assez étonnant dans une structure universitaire, parce que pour y entrer, il faut se déchausser. Ensuite, il y a des peluches, il y a des livres, il y a des coussins, etc. Et ceux qui sont dans cet espace, où on pourrait se dire c'est une aire de jeu, en fait, sont au contraire extrêmement attentifs. J'ai eu la chance d'y faire une conférence, d'y rencontrer des étudiants, et j'ai trouvé une qualité d'échange bien supérieure à celle qu'on peut avoir dans n'importe quel amphi, où on est physiquement là, mais où son esprit cherche à s'échapper.
Exactement, exactement. On est plus facilement captivé par ce qu'on écoute dans cet environnement-là, le Learning Center, parce que on n'est pas malheureux, et quand on a la chance de rencontrer un intervenant intéressant, on ne dérive pas vers son smartphone et autres. Il y a quelque chose de très paisible dans l'attention que chacun porte à son travail, parce que les conditions physiques, corporelles, sont à la détente, au bien-être, sans insister. Bien sûr, on est quand même là pour lire, travailler et se parler de choses sérieuses, mais ça se passe comme ça.
Alors que dans la plupart des autres universités, et certainement dans les écoles, notamment les écoles primaires, on a toujours la même disposition de classe qui n'a pas changé depuis des siècles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire le professeur sur une estrade, sur un bureau, et puis les élèves les uns derrière les autres, non ?
C'est un petit peu injuste, hein, parce que c'est un petit peu injuste. Il faut aussi que les techs entrent dans les vraies classes. Il n'y a plus d'estrade depuis très longtemps.
Il y en a une dans l'école de mon fils, c'est pour ça que je le dis.
Oui, mais c'est vintage, ça a du charme. Mais quand même, souvent et de plus en plus, les classes sont configurables. Elles sont souvent en îlot, au moins pour certaines activités, en tout cas dans le primaire. Alors après, c'est sûr qu'il y a une sorte de police des espaces qui est vraiment interrogée. C'est-à-dire que quelqu'un racontait, il disait, alors en maternelle, évidemment, tout le monde travaille en îlot, puis tout d'un coup on dit, attention, hein, vous êtes en grande section, l'année prochaine c'est le CP, ça ne rigole plus. Et hop, tout le monde se met en classe. Et pareil, donc il y a le primaire qui se déroule, puis tout d'un coup on est en CM2, attention, l'année prochaine c'est la sixième, etc. Tout ça jusqu'à l'enseignement supérieur, et nous on dit, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce que vous avez, quoi? Vous pouvez pas être normaux, quoi. Il y a quelque chose comme ça, il y a quand même une police des corps, une police des espaces qui est incompréhensible, qui peut s'expliquer bien sûr par le nombre, par un tas de choses. Mais nous, dans l'enseignement supérieur, en tout cas dans celui qu'on pratique au CRI, on fait tous nos efforts, bien sûr, et on n'est pas les seuls, hein, très loin de là, pour travailler le plus souvent possible en petits groupes et dans des classes configurables. Mais on n'est pas du tout les seuls. Hein.
Alors, tu diriges le master EdTech, précisément, du CRI. Comment sont envisagées les EdTech pour participer à cette nouvelle expérience de l'apprenant ?
D'une part, je dois quand même faire un aveu, en quelque sorte. C'est que le public qui est venu nous voir depuis 5 ans que ce master existe n'est pas forcément, et c'est quand même un symptôme qui est intéressant, n'est pas forcément celui qu'on avait imaginé. D'accord. On pensait qu'on aurait des gens très, très avertis en technologie, qui auraient besoin des supports scientifiques, de sciences cognitives, de psychologie développementale, de sociologie des interactions, de la coopération, etc. En fait, les gens qui désirent entrer dans ce master et qui sont, comme tu sais, un public international, sont plutôt des gens qui viennent avec des visées d'innovateurs pour l'école, mais qui, et ça il faut quand même retenir ce symptôme-là, se feraient plutôt sans la technologie.
D'accord.
Et comme par hasard, on est à un moment quand même où il y a une méfiance à l'égard de la technologie. Oui. Donc on est dans un paradoxe qui n'est pas mince, que je préfère avouer, c'est que notre intérêt au départ pour cette plateforme sciences et technologie a été un peu battu en brèche par la réalité des gens qui viennent et qui sont plutôt inspirés par des modèles comme Ashoka, Riverside, qui sont plutôt sur des choses d'une sorte de d'empowerment des enfants par une transformation de l'école. Et beaucoup D'accord. veulent réellement créer des écoles. Ouais. Alors moi, je pense qu'on est à un moment où les deux champs vont converger. Mmh. C'est-à-dire que les créateurs de technologies éducatives sont de plus en plus en train d'intégrer les conditions d'ensemble oui. et dépassent le premier stade, qui était un stade, on peut dire, d'application, oui. on peut dire, ou de plateforme. Mais je crois qu'on est en train de vivre une grande évolution de création de l'EdTech qui ont commencé par des orientations très mmh. sur le contenu et oui. puis qui sont en train de passer vers les questions d'individualisation des oui. parcours et de data et qu'il y a des changements très très profonds en cours.
Et alors, quand on parle d'individualisation des parcours, on pense évidemment à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est deux mots qui font parfois peur, hein, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un robot qui va venir prendre notre boulot. C'est pas exactement ça. Vous travaillez au CRI sur ces questions d'adaptive learning, d'intelligence artificielle ?
Alors, on a travaillé plusieurs années de suite avec les étudiants pour essayer d'imaginer ce que pourrait être la fonction d'un enseignant avec des élèves qui seraient équipés, en fait, mmh. de compagnons d'apprentissage basés sur du type learning ou l'intelligence artificielle. Donc, les étudiants ont fait des scénarios dans cette direction extrêmement intéressants. Imaginez, par exemple, que dans 2 ans, Amazon vend une espèce d'exerciseur qui permette aux familles de charger des exercices et puis d'avoir des corrections automatisées et qu'ils le fassent en suivant très strictement les programmes qui sont extrêmement détaillés. Qu'est-ce qui se passera dans la classe quand les élèves ou les étudiants seront équipés comme en ce moment, il y a beaucoup de contenu d'aide aux révisions. Bien sûr, ouais. Voilà. Imaginez que ça se perfectionne et que ça devienne vraiment, tu vois, que ça devienne vraiment collé à ton parcours propre. Le prof, complètement désarçonné, dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a 3 étudiants, 3 élèves dans ma classe qui ont ce machin d'Amazon, etc. » Je vais râler, je vais être en colère, mais là, maintenant, il est peut-être encore temps que ce soit les collectifs de profs ça, ouais. qui contribuent à designer ouais. ce genre d'outils. Et pour le moment, ils sont plutôt sur la défensive, sur la réserve, et sûrement, il va falloir imaginer des modes de co-conception qui tiennent plus du Living Lab, qui tiennent plus des méthodes de design, et où les profs acceptent de s'impliquer, parce que sinon, il y a une désintermédiation fort probable de la profession.
Il faut qu'on arrive à les embarquer, de toute façon. Les professeurs dans ces bouleversements pédagogiques, parce que c'est leur posture qui va changer, de fait.
Bah, tu vois, si tu regardes comment ça se passe dans les relations institutionnelles avec les ministres, inspecteurs, DAN, enfin, etc., toutes sortes d'intervenants verticaux, malgré tout, hein, ils n'aiment pas qu'on le dise, mais ça reste très vertical. Crois-tu qu'on entend souvent une question qui est « Comment pourrait-on rendre votre boulot plus facile, plus marrant, plus intéressant ?» Jamais, tu vois. On te dit « Mettez vos cours en ligne, créez des contenus, partagez. »
Oui, c'est des injonctions.
C'est des injonctions et qui ne sont jamais liées à la pratique réelle, tu vois. Quand on arrivera à designer des choses avec eux qui seront effectivement des allègements et pas une sorte de sourd-travail qui vient se mettre en plus et des allègements qui viennent à la fois faciliter leur travail mais qui viennent aussi s'ajuster au plus pur, au plus juste de ce qu'ils estiment être leur métier. C'est-à-dire faciliter l'embarquement de tout le monde dans l'apprentissage. Et de quoi on a besoin ? Ben, on a besoin de mieux comprendre comment les élèves raisonnent. On a besoin d'avoir un peu d'éclairage sur la façon dont ils reçoivent les contenus et les exercices. Pas forcément sous forme de feedback de type évaluation, ça va plus, ça va pas plus, mais plus profondément d'avoir effectivement un retour sur ce qui fait difficulté ou ce qui fait facilité, ce qui fait plaisir. Et ça, on l'a pas du tout, on l'a jamais eu.
Alors, on va entendre un entrepreneur, justement, Ivan Ostrovitz, qui est CEO de Domocio, tu l'as cité, qui a une solution fondée notamment sur l'intelligence artificielle et qui va nous donner son avis sur la question de la recherche et les sciences cognitives.
Il y a beaucoup de littérature scientifique par rapport à ce qui apporte les sciences cognitives, les neurosciences à l'apprentissage. Donc, pour en citer quelques-uns, le premier, c'est que, par exemple, on apprend mieux et on retient mieux quand on est challengé. Il y a aussi, par exemple, quelles sont les bonnes méthodes pour réviser. Donc là, on parle de la répétition espacée. Et comme ça, il y a plein d'études qui modélisent, en fait, en partie, la façon du cerveau d'apprendre.
Sophie, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que nous dit Ivan ?
J'ai travaillé il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans, sur les résultats d'une enquête sur la pédagogie dans l'enseignement supérieur, où justement on interrogeait des profs du supérieur en leur disant « Vous avez des contenus numériques pour vos étudiants ?»« Ah oui, bien sûr, bien sûr. Sous quelle forme ?»« Des PowerPoint, des diaporamas et tout ça. » »« Très bien, très bien. Et vos étudiants en sont contents ?»« Oui, très contents. » »« Et vous le savez comment ?»« on le sait, quoi. Enfin, » bon. Et ils vous en parlent ?« Oui, bien sûr. » Mais ils font quoi avec ?« je ne sais pas. Bon. » Et donc, on voyait en fait que d'une certaine façon, les profs, ils font leur part du boulot, mais ils estiment qu'une fois qu'ils ont monté le contenu en haut de la montagne, la redescente, elle est pour le public. Et que, effectivement, nous, profs, nous sommes habitués à designer des contenus qu'on envoie, mais dans nos cultures, on n'a pas encore la capacité, la propension à s'intéresser vraiment à la réception. Enfin, on peut dire content, pas content, intéressé, bon résultat ensuite, bon feedback, bonne performance, ça on sait le dire. Mais le comment, c'est-à-dire des choses aussi simples que qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que ce support est annoté ? Est-ce qu'il est découpé ? Est-ce qu'il est discuté en petits groupes ? Est-ce qu'il y a des recherches complémentaires ? Ça, non seulement je ne le sais pas, mais en plus je ne veux pas
Alors
le savoir.
À qui ? Pour tout le monde. J'espère en tout cas que rien ne remplacera à un moment donné l'humain et le professeur. Il n'est pas question de s'en séparer, de s'en passer. Parce qu'il y a quelques années, ça a été un peu la trouille. Hein. Appelons un chat un chat. Quand on a mis du e-learning en se disant les gens vont se former tout seuls, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas un questionnement, s'il n'y a pas une animation des connaissances et des informations.
Oui, il y avait aussi une peur qui était quand on a commencé à être sollicité pour mettre des cours en ligne. On entendait ça souvent chez les collègues. Si je mets mes cours en ligne, qu'est-ce qui restera pour moi ? On va couper la branche sur laquelle je suis, il y aura plus besoin de moi, etc. Maintenant, on sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Et justement, je pense que le retour de données que peut nous apporter Domocio ou d'autres est très important parce qu'il commence à nous sensibiliser à des façons tout à fait différentes de mentorer, d'accompagner, de laisser une place en fait à la pratique d'apprentissage des étudiants, des élèves.
Et alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour embarquer les profs dans tout ça, dans ce changement ?
Comment on peut les embarquer ? Moi, je crois que je donnerais trois motifs, trois ressorts. Le premier, c'est partir de ce qui les aide, eux, et pas raisonner tout le temps marché, parce que tous ces gens qui veulent pénétrer la classe comme un marché, c'est un peu glaçant pour un prof qui a déjà son paquet de soucis et d'ennuis. Donc, peut-être designer les choses et la relation par rapport aux besoins des profs. Il faudrait vraiment qu'il y ait un travail de conception qui soit plus en prise avec la classe, sous forme de partenariat, hein, de recherche, de technologie, de conception. Et je crois, justement, sur l'embarquement, ce serait mon deuxième. Ma deuxième préconisation, à laquelle je pense souvent, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense qu'on a trop une vision prestataire et que l'ETHEC ne peut pas trouver sa place ni être bien accueilli quand la relation est une relation de client-fournisseur et de prestataire. On pourrait dire de client-fournisseur réciproque, d'ailleurs, en fait. Et je pense que... C'est pour ça que je pense que des formats comme le Living Lab ou... je pense qu'il faudrait qu'il y ait que les projets EdTech, les initiatives EdTech, elles grandissent dans le milieu même de l'éducation. Mais je pense qu'on n'est pas assez inventif sur la variété des collaborations au long cours qui sont possibles.
Rapprocher les mondes, en quelque sorte. Et on a souvent des enseignants qui deviennent eux-mêmes entrepreneurs EdTech. Hein, parce que
c'est
dans
vrai.
Leur pratique quotidienne, ils ont vu que tel sujet auquel ils pouvaient répondre.
C'est assez
fréquent. C'est intéressant à voir. Et dans les ESP, le numérique est pris en compte, les innovations pas
Alors, tellement. D'abord, dans les ESP, les situations peuvent varier. Ça dépend beaucoup des équipes de profs.
Donc, les ESP, je le rappelle, c'est où on forme les professeurs.
Les écoles supérieures pour le professorat et l'éducation. Et une des difficultés, c'est que les heures sont comptées, exactement comme au lycée, ça s'est fait de la même façon. Et que chacun a intérêt à défendre sa discipline, donc à défendre en quelque sorte des heures. Et que ce qui reste pour le numérique, c'est vraiment refouler sur des questions très fonctionnelles, du style une plateforme d'enseignement à distance pour maintenir le lien avec les étudiants professeurs quand ils sont en stage. À ma connaissance, il n'y a pas une véritable approche riche de la relation entre
techniques, servicielles et pas dans
la... Je suis peut-être injuste, mais effectivement, c'est plus du serviciel, oui.
J'entendais que on pense comme ça, spontanément, que les profs les plus enclins à utiliser les solutions innovantes sont les plus jeunes. Et je comprends que ce n'était pas le cas, parce que précisément, les plus jeunes, ils ont un premier enjeu qui est de faire classe, et que ce n'est pas simple de faire classe quand on a 30 gamins face à soi, et que ceux qui, au contraire, étaient les plus ouverts à l'innovation ou à repenser la façon de transmettre les connaissances, c'était ceux qui avaient entre 35 et 45 ans, c'est-à-dire une certaine expérience déjà, et qui n'étaient plus dans des enjeux de discipline ou qui maîtrisaient déjà leur métier.
Oui, et puis il ne faut pas du tout négliger l'allergie qu'une génération jeune a à l'égard de la technologie. Quand on travaille, par exemple, quand il y a des sessions de design fiction, par exemple, autour de... j'allais dire des jeux, mais ce n'est pas des jeux, sur la collapsologie, le grand effondrement, etc. C'est assez drôle parce que ces sessions de design fiction, tout le monde dit « Ouf, il n'y a plus d'Internet.
Ouais, »
Enfin, on est débarrassé, on peut recommencer à apprendre à écrire avec une plume d'oie, c'est le paradis. Et moi, je suis toujours un peu... Moi, je pensais que les gens allaient inventer des Internets décentralisés, des réseaux mesh, tourner autour de la coopération ultra-locale. Pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Pas du tout. Ça y est, on a enfin une peau de chèvre, etc. Non, mais c'est vrai. Et donc, l'allergie, elle est très, très forte à la technologie chez les gens d'une vingtaine d'années.
C'est vrai que le discours ambiant est plutôt un discours
anti-écran. Et puis il faut quand même être lucide, il faut voir la situation telle qu'elle est, de l'emprise des GAFA sur les psychismes, sur les vies, sur le temps. C'est bien normal et c'est bien la moindre des choses qu'il y ait une révolte. Donc l'EdTech, elle a aussi cette responsabilité là de s'inventer indépendamment des modèles de domination qui ont pris le pas en ce moment, quoi, et qui sont pas du tout des modèles de libération. Donc il y a une responsabilité morale pour la France, pour l'Europe, qui est de n'être ni la Chine ni les États-Unis. Et parfois, surtout quand on est à VivaTech, on se demande un peu où les gens ont laissé leur cerveau et leur âme, parce que le modèle du biz, quelquefois, il est quand même un peu court sur pattes par rapport aux enjeux.
En tout cas, merci beaucoup Sophie, parce que grâce à toi, je n'ai pas consulté mon smartphone. Voilà. Donc tu as réussi, par ton discours passionnant, à enlever un peu de cette emprise qu'ont les GAFAM sur ma vie et sur nos vies. C'était passionnant, merci beaucoup. Et alors en plus, la transition est toute faite, parce qu'on a parlé des professeurs, de la façon dont pour les embarquer, etc. Et on va recevoir juste après, tu as le droit de rester dans le studio, un certain Joris, qui est cofondateur de... Et du Voices, c'est précisément des communautés de professeurs qui vont parler d'innovation pédagogique et peut-être technologique.
Je vais l'écouter avec plaisir. Merci beaucoup, Rémi.
C'est un plaisir. À très bientôt, Sophie. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à Laura Macari pour sa préparation.